N'aie pas peur, jette-toi. Il n'y a pas de projet sans obstacle. Il n'y a pas de projet sans défi. Il faut tout simplement nourrir son être de toute la puissance de la pensée positive, de toute la puissance des gestes positifs, de toute la puissance de la foi si tu la possèdes et te dis « je vais y arriver ».
Bienvenue dans le podcast Altitude, un podcast qui vous montre que rien n'est écrit à l'avance, qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous montre que la liberté de changer de voie existe et qu'on a le droit de sortir des sentiers battus.
S'il arrive que sur le chemin, tu chutes, la chute n'est pas la fin. Parfois, dans cette chute, tu peux reprendre les forces, tu peux avoir la meilleure position pour réévaluer ton projet, pour pouvoir te relancer. Il faut avoir toujours un projet de vie.
Je m'appelle Louis, je suis étudiant en master de journalisme à l'Université catholique de Lille et je suis ravi d'être en compagnie de Patrick Talhomme, qui est étudiant à l'Université catholique de Lille en faculté de théologie et en licence canonique.
Tout à fait.
Voilà, oui. Niveau Master 1.
Disons que la licence canonique, c'est le Master 2 et c'est le baccalauréat canonique qui correspond au Master 1. Voilà, c'est ce qu'on peut, on peut dire.
Ma première question, c'est est-ce que tu te sens bien à l'Université catholique de Lille?
Ah oh ouais, c'est un peu comme si on déguste un tiramisu, là. Je me sens bien dans ma faculté. Et avec mes camarades, mes collègues, on a l'habitude de dire souvent, c'est plus qu'une faculté, c'est une famille.
Ah ouais, à ce point-là.
Ah ouais, à ce point-là. À ce point-là.
Mais comment ça se fait?
Mais comment ça se fait? Parce que déjà, il faut pouvoir situer les choses. La faculté de théologie, au sein de l'Université catholique de Lille, a cette particularité qu'elle est l'une des facultés qui est vraiment dans la transversalité. Pourquoi? Parce que déjà, les cours qu'on donne là-bas permet que des étudiants qui sont dans les autres facultés peuvent venir pour pouvoir faire des cours en option. Donc, ce qui fait que le profil des étudiants de la faculté est un profil très international. C'est-à-dire, on a des Indonésiens, on a des Camerounais, on a des Gabonais. Donc, c'est vraiment multiculturel. Ensuite, on a aussi des personnes, des travailleurs, des retraités qui sont là. Donc, on a vraiment, c'est une société en miniature. Et dans un contexte pareil, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on prend du temps pour pouvoir faire du lien. On prend du temps pour pouvoir déguster le savoir. Non plus comme si on cherche forcément à être le premier, mais on veut être le meilleur avec les autres. Et ça,
donc
ça change la manière de
faire. C'est un travail d'équipe, quoi.
C'est un travail d'équipe. Ça, c'est un travail d'équipe.
Et est-ce que, depuis que tu es à l'Université catholique de Lille, bon, c'est depuis combien de temps que tu y es déjà?
Alors là, j'ai débuté ma cinquième année à l'Université catholique de Lille.
Ouais, la cinquième année.
Oui.
Mais est-ce que, quand t'es sorti du lycée et tout, c'était quoi ton projet professionnel à la base? T'avais déjà une idée de ce que tu voulais faire ou c'était totalement différent de ce que tu fais là actuellement?
Tu sais poser des bonnes questions, toi. Hein. Alors, peut-être ce serait intéressant de revenir sur mon parcours, si tu le permets, en 2 ou 3 minutes.
Oh, bien sûr, oui.
Voilà.
Bien sûr.
Comme tu l'as bien constaté, j'arrive dans ce fauteuil à bord d'une décapotable fauteuil roulant, avec une belle calvétie qui est au vent et tout ça. Alors, l'histoire, c'est tout simplement que quand j'étais ado, je rêvais rentrer dans les forces spéciales, dans l'armée. J'étais au Cameroun.
Ah ouais, ouais. Les forces spéciales. Cameroun.
Ah ouais, ouais, je voulais entrer. Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais vu à la télévision un documentaire de la Légion étrangère.
Ouais.
Les légionnaires étaient parachutés dans des pays où il y avait des situations dramatiques. Et ils arrivaient comme des anges et ils aidaient la population. Bon, on va pas faire politique, on va pas entrer dans les polémiques. Mais il y avait cette dimension du soldat qui vient protéger. Ça m'a beaucoup touché. Donc, j'ai voulu entrer dans l'armée.
C'est vrai, ça a été une espèce de vocation finalement. Ça, oui. C'est un déclencheur que tu as eu en regardant ce documentaire. Je veux faire ça.
C'est ça. J'ai vu ça, j'ai dit, des gens qui protègent d'autres, j'ai envie de protéger aussi. Mais il arrive que j'ai été opéré. J'ai eu une double opération quelques mois avant le recrutement. Et là, on m'a dit, tu ne peux pas faire un recrutement dans cet état sanitaire. Ça a été très dur pour moi, ça a été vraiment très dur. Et j'étais au Cameroun à l'époque, j'ai été envoyé à Rome, en Italie, en 2000, pour pouvoir faire un temps de formation. On a eu l'occasion de rencontrer le pape Jean-Paul II, qui est aujourd'hui Saint-Jean-Paul II. C'était un grand moment pour moi. Et là, quand j'arrive à la basilique Saint-Pierre de Rome, j'ai l'impression qu'il y a un changement de paradigme. Là, j'ai envie de dire, je veux servir. Ça veut dire, je voulais protéger hier par la force des âmes. Aujourd'hui, je veux servir par la puissance, par l'écoute, par l'attention, par le don de ma vie au service des autres.
De toute façon, je crois que dans l'armée, enfin, dans les armées, généralement, c'est protéger et servir.
C'est protéger et servir.
C'est les deux.
Voilà. Donc, Rome bouscule quelque chose en moi. Et comme je m'apprêtais à passer mon baccalauréat, je me dis, il faut que je prenne une année pour discerner. Et ça, c'est intéressant, c'est ta question, Alain, pour savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et au moment où je m'apprête à vouloir prendre cette année, je fais cet accident qui m'a paralysé à vie. Je perds mes jambes. Et je me retrouve en train de faire 10 ans entre les hôpitaux et la maison familiale. Et en 2016, je me dis, mais bah, écoute Patrick, tu es vivant là. Il faut redonner un sens à ta vie. Et là, je débarque à l'Université catholique de Lille avec un projet fou. Fait 10 ans à l'Université catholique de Lille. Et pourquoi pas si possible, sur le jackpot, décrocher une thèse de doctorat. Et je suis là. En licence canonique, cette année.
Donc on rappelle, hein, licence canonique, donc niveau master. Hein.
Voilà, c'est ça.
Tu évoques ton accident, ça ne te déroge pas d'en parler, hein, bien sûr.
Non, on peut en parler. Doit même en parler, parce que l'Université catholique de Lille, il faut pouvoir le dire, a tout un projet en ce qui concerne l'accessibilité et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et c'est important d'en parler.
Donc toi, ça fait 10 ans, c'est ça que tu es en...
Alors, ça fait 16 ans que j'ai fait l'accident.
Ah, ça fait 16 ans que tu es
voilà,
en situation de handicap.
Voilà, et ça fait 5 ans que je suis étudiant à l'Université catholique de Lille pour un projet de 10 ans.
Et tu peux nous raconter comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, quelles ont été les étapes par lesquelles tu es passé?
Alors, il faut le dire, quand du jour au lendemain, votre vie bascule, permettez-moi, à ceux qui certainement vont nous écouter, on ne va pas choquer. Mais il faut pouvoir le dire, le Covid nous a appris quelque chose, que du jour au lendemain, tout peut basculer.
Ouais, ça c'est bien vrai.
Et comment faire? Comment faire pour ne pas stresser? Comment faire pour ne pas perdre le moral quand on est étudiant et du jour au lendemain, on ne peut plus avoir de job? Comment du jour au lendemain, quand on a perdu papy, on a perdu mamie, maman a perdu son boulot, papa a perdu son boulot, comment on fait pour se reconstruire? Pour moi, c'est comme ça que je prends la chose. Du jour au lendemain, à 26 ans, je fais un accident, je perds mes jambes. Il y a eu d'abord un moment où il a fallu accepter cette réalité. Patrick, tu ne marcheras plus. J'ai essayé de regarder en pharmacie si on vendait des jambes toutes neuves, mais il n'y en avait pas. J'ai essayé de regarder si au marché noir, on pouvait aussi trouver des jambes. Il n'y en avait pas aussi. Alors j'ai dit, il faut accepter. Mettons de l'humour, lui. Mettons de l'humour en cette période où c'est si difficile. Je me permets. Alors, il a fallu se reconstruire. Et la première reconstruction est venue d'une grâce que je peux dire que j'ai eue, la famille. Ma famille, elle a fait bloc autour de moi. Elle a dit, Patrick, tu as du prix à nos yeux et on va t'aimer. Ensuite, il y a eu des amis. Il y a un groupe d'amis qui ont pris la décision en disant « Tu ne peux plus marcher, on va marcher pour toi. » Ils ont été présents. Et enfin, il faut pouvoir le dire, dans un monde où on n'est plus dans une sorte d'anthropologie globale, où on dissocie, il y a eu la grâce. Quelque chose qui m'échappe, qui est l'ordre du mystère. Parce que pourquoi telle personne a le Covid et pas moi? Parfois, c'était un mystère. Les mêmes groupes de jeunes sont allés à une fête. Certains ont été contaminés et d'autres n'ont pas été contaminés. Et pourtant, ils ont tous respecté les gestes barrières. Parfois, c'est aussi un mystère qu'il faut pouvoir accepter. Mais il faut pouvoir faire face. Donc, il a fallu passer par ces étapes. Et ensuite, il a fallu beaucoup travailler la résilience. C'est-à-dire transformer ce qui semble être un malheur pour en faire un atout. Et là, je peux vous dire que l'Université catholique de Lille a été une thérapie psychologique pour moi.
Ah oui, carrément, à ce
point-là. Ah oui, à ce point-là. Okay. Ça a été vraiment la petite capsule, le petit grain de comprimé qui m'a reconstruit. Parce qu'ayant passé 10 ans entre les hôpitaux, entre les centres de rééducation et la famille, lorsque je reviens sur les bancs, j'ai la chance donc de trouver une faculté où les étudiants ne sont pas en concurrence, où les étudiants sont plutôt en train de se soutenir, où la référente handicap est soucieuse de la situation de toutes les personnes en situation de handicap qui sont dans les couloirs. Voilà. Donc, il y a tout cela qui est mis en œuvre. Du coup, il n'y a plus cette sensation parfois de rejet social, de manque d'accessibilité, mais il y a vraiment tout un dispositif qui est mis en place et qui permet de dire, allez, on peut relever le challenge. Le challenge de l'école, le challenge du savoir.
Tu as évoqué ta famille juste avant. Est-ce que pour toi, dans la construction de ta vie, dans la construction de ton projet professionnel, le soutien de la famille, c'est important? Ou est-ce qu'au contraire, des fois, c'est peut-être plus compliqué?
Ah, dans mon cas, tout a été joué toujours en famille, même pour mes études. Quand j'ai décidé de reprendre les études à l'Université catholique, bien évidemment, il fallait se rassurer que mes factures soient payées, qu'il fallait que ma scolarité soit payée. Et c'est ma famille qui a été sur le premier champ de bataille en disant, écoute, ok, tu veux aller à l'Université catholique parce que là-bas, on forme les meilleurs. Et on donne le meilleur, alors nous aussi, nous allons donner les meilleurs sur le plan des moyens financiers pour que tu y arrives. Et même quand il y a des soirées que je rentre, que je suis complètement fatigué, complètement à bout, on dit, écoute, tu vas prendre du temps, tu vas te reposer et ensuite on va te ressoutenir. Donc la famille a joué vraiment un rôle important. Et je crois que plus que jamais, pour les étudiants, c'est toujours très important de savoir qu'il y a cette famille qui les porte hein, dans leurs études, parce que le temps des études, c'est toujours un moment de stress, d'angoisse, de questionnement, où on a besoin de pouvoir être accompagné, et la famille joue toujours un rôle important. Bon, c'est vrai aussi que nous ne pouvons pas oublier des étudiants qui parfois n'ont pas de famille, qui sont venus des autres villes, par exemple pour Lille. Nous ne pouvons pas oublier les autres étudiants qui parfois ont certes des familles, mais qui sont des familles en grande difficulté, qui passent des moments difficiles, dont le lien familial n'existe pas. Et en ce moment, c'est la magie de l'amitié. C'est la magie de la rencontre. Et c'est ça aussi tout la beauté, hein, puisque de l'Université catholique, avec toute la magie associative qui permet que on peut rapidement s'intégrer dans une équipe. Ou bien, par exemple, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé à l'Université catholique, que immédiatement, la sœur Zoé, qui est à l'aumônerie, m'a invité à rejoindre l'aumônerie des jeunes. Et vous savez qu'au tout début, lorsque l'aumônerie se trouvait du côté...
Du côté du bâtiment du hall.
Exactement, du côté du hall, il y avait un problème d'accessibilité. Mais tous les midis, quand j'allais là-bas, tous les étudiants de l'aumônerie me portaient avec sourire, avec joie, pour que moi aussi, qu'avec mon fauteuil, j'accède à la salle pour pouvoir partager un temps avec eux. Maintenant, le nouveau bâtiment qui a été donné est plus accessible et je peux accéder facilement. Donc, il y a tout cela qui a participé à reconstruire la personne que je suis et je peux dire que l'Université catholique a participé à me dire, écoute, tu es limité peut-être au niveau de tes gens, mais nous allons créer un environnement pour te permettre de pouvoir aller le plus loin possible.
Alors, je te rejoins sur ce point. C'est vrai que de mon côté aussi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un très très bon soutien. Et par contre, j'avais une question, parce que c'est une question que je me pose souvent et j'ai du mal un peu à faire la part des choses entre faire des études parce que, enfin en tout cas réussir mes études parce que ma famille me soutient et du coup c'est pour leur faire plaisir et les rendre heureux. Ou est-ce qu'il faut, je sais aussi qu'il faut que je sois heureux, mais tu sais, faire la part des choses entre les deux, rendre fier ta famille, te rendre fier aussi. C'est parfois un choix qui est compliqué et moi, c'est vrai que ça m'a perturbé pendant quelques temps. Toi, comment tu le visualises?
Alors, comment je visualise la chose? Je me permets de dire, j'ai eu cette chance que mon père et ma maman ont toujours pris du temps pour pouvoir nous écouter. Et ils ont toujours mis ce point d'honneur à ce que nous nous réalisons, que nous devenions heureux. Et en aucun moment, ils se sont mis en opposition avec nos désirs le plus profond. Du coup, dans ce que je faisais, c'était pas d'abord réussi pour ma famille, mais ma famille mettait toujours un point d'honneur à ce que je sois heureux. Et lui, ce que tu es en train de dire est très important. Et je crois que ça dépasse même le simple cadre de la famille. Ça revient... L'ancien recteur de l'université, Pierre Giorgioni, a écrit un ouvrage il y a 2 ou 3 ans sur la question du transhumanisme, l'eugénisme, pour poser des questions sur le sens de la vie aujourd'hui. Qu'est-ce que nous recherchons aujourd'hui en tant qu'humanité? Et c'est la véritable question. Pour beaucoup d'étudiants, c'est très difficile. Et parfois, ils se retrouvent dans des moments de stress parce que justement, il y a un besoin de ramener des résultats par rapport à la famille. Mais je crois que la famille devrait plutôt travailler à ce que la personne s'épanouisse d'abord. Et ça, c'est possible. Comme tu le dis encore, hein, ce n'est pas toujours évident d'être confronté à cela. Mais d'une famille à l'autre, on aura d'autres réalités. Mais dans mon cas particulier, j'avoue que la transition entre ma validité, mon invalidité, la transition entre le temps où j'ai arrêté d'aller à l'école et je suis revenu, elle a été toujours là, cette famille, pour écouter mon désir et transformer ce désir.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, à un étudiant qui arrive en première année et qui se retrouve dans un milieu qui est quand même assez particulier, on va pas se le cacher. Entre la fac et le lycée, il y a un monde.
Oui, il y a un monde.
Il y a un monde. Que ce soit au niveau des gens, au niveau des cours, au niveau de la difficulté aussi. Quel conseil tu donnerais pour un étudiant pour qu'il puisse s'épanouir au maximum?
Alors, quel conseil je veux donner? Je veux pas te mentir que je veux d'abord partir de la situation du Covid. On a vu que la reprise a été très compliquée pour les lycéens parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des week-ends d'intégration. Ils n'ont pas eu la chance, beaucoup n'ont pas eu la chance d'avoir tous ces dispositifs qui permettent de pouvoir faire les premiers pas. De la terminale au lycée, il y a un grand fossé. Le grand fossé, c'est tout simplement que si au lycée, on avait la chance d'avoir justement cette famille qui pouvait suivre très facilement nos contrôles continus, sur la route de la faculté, désormais, on devient tout autonome, même si quelque part la famille va demeurer. Et le premier conseil que je donnerais, c'est dit, lorsqu'on est jeune, c'est une chance, c'est une grâce. Et on doit être fier de savoir qu'on a cette grâce d'être encore jeune. Première chose. Deuxième chose, je dirais qu'il y a la beauté de l'instant. Aujourd'hui, maintenant, t'appartient. Et c'est aujourd'hui et maintenant que tu dois être capable de pouvoir te projeter pour demain. Tu as eu la chance d'avoir ton baccalauréat et tu as eu la chance de pouvoir entrer dans une grande université. Alors, n'oublie jamais que c'est ta capacité à faire lien avec les autres et c'est ta capacité aussi à accueillir le savoir que les enseignants vont te donner qui vont te permettre de pouvoir te projeter. N'oublie jamais de te donner un projet. Il faut pouvoir se donner un projet de vie en se disant, voilà, dans 3 ans, au bout de ma licence, je voudrais arriver à ce niveau. Et ensuite, il faut chercher de se donner les moyens pour atteindre cet objectif. Mais il ne faut jamais perdre quelque chose de vue, le lien avec l'humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un monde de consumérisme, dans un monde de concurrence, dans un monde de défis, le premier challenge, c'est avec toi-même. Le premier challenge n'est pas avec les autres. Les autres ont 20, 19 de moyens, c'est une très bonne chose. Toi aussi, tu peux tutoyer les 20 de moyens. Mais en aucun moment, tu ne dois te faire un stress au point de pouvoir virer dans une dépression parce que tu n'as pas atteint cet objectif-là. Tu dois toujours donner le meilleur de toi. Et tu dois arriver à prendre conscience qu'aujourd'hui, tel que l'humanité se positionne, on ne peut plus imaginer vivre tout seul. C'est-à-dire, dans ton projet, dis-toi toujours qu'il y aura un besoin d'être en harmonie avec la planète, d'être en harmonie avec toi-même et d'être en harmonie avec ceux qui sont autour de toi. De cette manière, c'est possible. Et dans nos différentes facultés, il y a des conseillers d'orientation qui peuvent encore t'aider à structurer ton projet intellectuel pour donner un sens. Le Media Lab, par exemple, fait partie des outils de cette université numérique à la pointe qui permet justement de répondre à des besoins des étudiants. Voilà ce que je peux dire. Mais surtout de profiter au maximum de ce temps à l'université. C'est un temps qui mérite de pouvoir en profiter au maximum. Parce qu'après, on va entrer dans le monde du travail avec tous les stress, avec les fiches de paye et préparer les fiches de retraite et autres. Alors, il faut en profiter, il faut s'amuser, il faut être dans la joie. Mais bien évidemment, en cette période de Covid, tu joues dans le respect des gestes barrières.
C'est un très, très bon conseil. Mais tu as évoqué ton parcours. Mais moi, je me posais la question, qu'est-ce que tu as fait réellement dans ce parcours? C'était quoi ta filière? C'était quoi tes matières? Quels sont les cours que tu as suivis? À quelle faculté?
Là, je me permets, avec l'autorisation du président recteur, du doyen de ma faculté, je me permets de pouvoir dire toute la beauté des cours que j'ai fait ici. Je suis content des cours. D'abord, en termes de cursus, j'ai choisi de faire un cursus en théologie. Pourquoi d'abord la théologie? On a souvent l'impression qu'on dit faculté de théologie, aïe, 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 c'est les prêtres, c'est les religieux. Non, 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 non. Si on vous l'a dit, il n'y a pas que ça. Vous êtes étudiant à l'Université catholique de Lille, vous voulez faire un cours optionnel, venez à la faculté de théologie. Vous êtes un étudiant de cette université, à un moment, vous vous posez des questions sur le sens de la vie, vous vous posez des questions sur l'islam, vous vous posez des questions sur le judaïsme, vous vous posez des questions sur le shintoïsme, sur les religions traditionnelles africaines, vous voulez faire la philosophie d'une manière différente, venez à la faculté de théologie. En fait, je suis en train de vous citer les cours que j'ai faits. Donc, le cursus, c'est quoi? C'est que j'ai choisi dans un premier temps de faire un cursus qu'on appelle très souvent un diplôme de théologie pratique. Donc, ça veut dire c'est 3 années d'études pour pouvoir avoir les capacités de pouvoir faire une lecture évangélique de la parole à travers des faits assez concrets, à travers le quotidien. C'est question de voir comment les autres interprètent cette parole dans le quotidien. Après cette licence, parce que le diplôme de théologie pratique correspond à une licence, j'ai donc fait un baccalauréat canonique qui correspond donc à une gradation du Vatican, parce que le cursus que j'ai choisi, c'est un cursus canonique, parce qu'il y a un cursus à la fois LMD dans notre faculté et un cursus canonique. Donc, j'ai choisi donc de basculer dans un cursus canonique parce que dans mes études, je mets en dialogue la théologie et les sciences humaines et sociales. Donc, j'essaie de voir comment les deux peuvent se rencontrer. En fait, c'est question de voir comment la foi rencontre la raison pour pouvoir en faire un bouquet. Et ce que je fais également, je mets en dialogue 2 cultures. Je mets en dialogue la culture européenne et la culture africaine, parce que je suis toujours en lien avec ce continent. Donc, je mets en dialogue ces 2 éléments. L'autre chose aussi très importante, c'est que je choisis particulièrement de me spécialiser dans le champ de la souffrance et particulièrement du handicap. Donc, ce qui fait qu'avec le professeur Dominique Foyer, qui a créé un groupe de recherche, je fais partie d'un groupe de recherche de la faculté, où nous réfléchissions comment les communautés chrétiennes intègrent les personnes qui sont en situation de handicap, ou bien comment les personnes en situation de handicap essaient d'être intégrées dans les communautés. Donc, voilà comment mon cursus s'est déroulé. Également, dans la faculté, on a des cours de latin, on a des cours de grec, on a des cours d'arabe, on a des cours également sur le Proche-Orient, on a des cours sur les religions traditionnelles africaines, on a des cours de philosophie. Pourquoi pas prendre un cours optionnel pour faire par exemple philosophie politique, pour faire par exemple droit de l'homme avec Pascaline Turpin, pour faire par exemple des cours avec le doyen de la faculté, le professeur Paolo Rodriguez, sur la question de Dieu. Attention, il y a une chose très importante. En aucun moment, aucun professeur de la faculté ne va essayer de vous convertir. D'abord, l'ensemble des professeurs de la faculté ne sont pas des catholiques. Il y a des professeurs qui appartiennent à d'autres courants religieux. Donc, la faculté de théologie, et avec le cursus que j'ai fait, c'est un cursus vraiment de transversalité, c'est un cursus ouvert sur le monde, et c'est un cursus surtout, comme je le dis, qui accueille une multitude de nationalités. Nous ne sommes pas moins d'une 15aine ou une 20aine de nationalités dans ma faculté. C'est une faculté où on est très sérieux quand on étudie, mais en même temps, on réalise qu'on est des humains et qu'on doit lâcher prise. Voilà toute la beauté de cette faculté. Et voilà la beauté de mon cursus, qui est un cursus licence, baccalauréat canonique, et actuellement, attention, la licence canonique, c'est pour ça qu'on dit dans ma faculté diplôme de théologie pratique. Même si ça équivaut à une licence, on parle de diplôme. C'est pour éviter des quiproquos en termes de prononciation et en termes administratifs. Et ensuite, la licence canonique correspond en principe à un bac plus 7.
Bac plus 7, ouais.
Oui, c'est bac plus 7.
T'as pour objectif de faire une thèse, c'est bien ça?
L'objectif pour moi, au final, avec la grâce de Dieu, ça, je l'invoque à ce niveau, de me donner la grâce de l'intelligence et de la sagesse, parce que je suis convaincu que je ne peux pas savoir de tout de moi-même, c'est d'arriver à faire une thèse. J'espère avoir de très bonnes notes pour y arriver, mais c'est mon rêve de faire une thèse sur la question du handicap. Et l'objectif pour moi, j'aimerais bien faire une thèse qui va porter sur la question de la charité envers les personnes en situation de handicap, en faisant une étude comparée entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Pourquoi les 3 continents? Parce que en Europe, on a eu des grands mouvements sociaux en ce qui concerne le handicap, avec par exemple les disability studies du côté de l'Angleterre. En France, on l'a eu avec la loi de 1974-1975, qui est la première loi qui a fait bouger le handicap, et la loi de 2005 avec toutes les innovations de 2002 et autres là. Et ensuite, en Amérique, on a eu les grands mouvements aussi au Canada, aux États-Unis. Mais en Afrique, il n'y a pas eu réellement de mouvement en ce qui concerne le handicap. Et je trouve que ce serait très intéressant pour moi d'arriver à faire une étude comparée de tout cela pour voir dans quelle mesure il y a quelque chose de nouveau qui peut jaillir.
J'avais une autre question qui, parce que du coup, tu évoques tout l'aspect en fait de ta situation, tu l'as transformé un peu en projet d'étude aussi.
C'est ça.
Ça a été un des impacts de ton accident.
Oui, oui, oui. Parce que du jour au lendemain, je ne marchais plus. Je faisais partie de l'équipe de volley de mon lycée. J'étais le capitaine. J'étais le responsable diocésain de la pastorale des jeunes. Donc, on va dire, on n'était pas mis les big boss. Et du jour au lendemain, disparition de la circulation. C'est dû. C'est dû parce que le regard des gens n'est plus le même. Tout le monde n'a pas de l'empathie. Tout le monde n'a pas de la compassion. Et moi, j'aime toujours dire que je voudrais dépasser mon handicap. Quand je parle, ceux qui me courent ne peuvent pas imaginer que je suis en situation de handicap. Et pourtant, je le suis et je le revendique même. Donc, ma situation a finalement révélé quelque chose en moi. Et aujourd'hui, pour moi, ça devient même mon combat. Ça devient finalement ma vocation. Ça veut dire travailler. Parce que j'ai un diplôme aussi d'aumônier hospitalier dont j'ai l'accréditation de l'État français pour pouvoir écouter et accompagner dans le cadre des hôpitaux.
Tu l'as fait dans quel cursus?
Alors, je l'ai toujours fait dans le cursus de mes études théologiques parce que la faculté de l'université, je l'ai fait à l'époque à l'université de Strasbourg.
Ouais.
Mais depuis un certain nombre d'années, notre faculté également propose un diplôme universitaire d'aumônier hospitalier qui donne des outils à la fois juridiques et des outils à la fois théologiques et des outils à la fois en sciences humaines et en sciences sociales pour pouvoir justement dans les couloirs des hôpitaux écouter des personnes en grande difficulté, y compris même le personnel soignant.
Toi, tu as eu un déclic.
Oui.
Est-ce que tu penses que quand un étudiant a un déclic, même s'il est déjà engagé dans les études, etc., il a un déclic, est-ce qu'il doit se dire « faut quand même que je termine ce que j'ai commencé » ou est-ce qu'il doit se dire « c'est le déclic, c'est ça que je veux faire, il faut y aller » Est-ce que l'hésitation est permise ou est-ce qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir?
On a le droit d'hésiter. On a même le droit de douter. Mais on n'a pas le droit de renoncer. On n'a pas le droit de renoncer. Tout à l'heure, je posais par exemple la question sur le but de la vie. Permets-moi de citer ici Saint Ignace dans les Principes et Fondements.
De Loyola.
Voilà, de Loyola, qui dit ceci, quel est le but de notre vie? Le but de notre vie, c'est d'honorer Dieu. Et nous ne devons jamais. Toutes les choses de la terre ont été créées pour accompagner l'homme vers ce but de la vie, c'est-à-dire honorer Dieu. Nous ne devons pas chercher santé plus que maladie, et richesse plus que pauvreté, honneur plus que déshonneur. Nous devons toujours chercher le juste milieu. En partant de là, la question que tu poses, lui, c'est une question liée au discernement. Et aujourd'hui, je crois que notre société moderne ne nous a pas suffisamment outillés pour discerner. Et que pour prendre conscience que justement, que chaque acte que nous posons doit être motivé par quelque chose de fondamental, l'amour. La question que tu poses, c'est une question de discernement. Est-ce que nous prenons encore du temps aujourd'hui pour prendre du recul, pour se poser la question, est-ce que c'est ce que je dois faire? Et le discernement concerne toutes les étapes de notre vie. Et quand on a engagé un projet universitaire, attention, parfois on a des opportunités. Il y a des opportunités qui ne nous donnent pas 36 secondes pour réfléchir. C'est maintenant, c'est pas demain. Il faut y aller. Et qu'est-ce qui peut nous aider à pouvoir se dire, je laisse tomber maintenant, je fonce? Il y a l'intuition et la conscience. Lorsqu'au plus profond de toi, il y a cette intuition, il y a cette lumière, il y a cette conscience qui est tranquille, qui ne te torture pas. Parfois, il y a des opportunités qu'il faut saisir. Mais attention, parfois, il faut prendre du recul pour discerner, pour réfléchir, pour analyser tous les contours. Et quand on a pris la décision, il faut maintenant s'armer. Parce que même quand la décision est bonne, parfois, il peut y avoir du découragement sur le chemin. Et je peux te le dire, lui, cette période de confinement n'a pas été facile. Ça fait l'objet de mon prochain bouquin. Je raconte un peu à l'intérieur comment moi aussi j'ai géré le confinement en tant qu'étudiant, en tant qu'une personne en situation de handicap, enfermé dans 4 murs. Il faut prendre du temps pour discerner et réaliser que même s'il y a une période qui est difficile, je ne vais pas renoncer à mon projet. Je veux continuer. Il faut pouvoir résister. Mais attention, parfois il faut aussi lâcher. Parce que lâcher fait plus du bien que de s'accrocher. Mais comment le savoir? Il faut discerner. Et comment discerner? Il faut déjà chercher quelqu'un qui peut nous écouter pour nous aider à comprendre. Ça peut être un conseil d'orientation, ça peut être l'aumônerie. Il faut ces éléments. Et à partir de là, on est capable de dire, voici les outils. Moi, j'ai perdu mes jambes. J'ai eu la chance que j'ai eu un moine avec qui j'ai beaucoup médité. La méditation m'a fait du bien. Allez dans la montagne, marche. Ça fait du bien.
Ça, c'est un conseil que tu donnerais, par exemple, à un étudiant, genre, prends 10 minutes pour méditer, tu te poses dans ton lit, puis tranquille, tu souffles,
voilà,
et tu réfléchis.
Souffle. Souffle. Tu as une grande décision à prendre et tu as une entreprise qui t'appelle et qui te dit, on voudrait vous embaucher, on veut votre réponse, est-ce que vous êtes prête à nous la donner d'ici une heure? Voilà. Ne te précipite pas. Prends du temps. Prends du temps. Respire. Respire. Si tu veux marcher 30 minutes, marche 30 minutes. Si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui a l'habitude de t'écouter, appelle cette personne et partage avec cette personne pour écouter un autre son de cloche. Et si tu n'as personne, tu es vraiment laissé à toi-même, respire d'abord. Respirer fait du bien. Si tu es croyant, alors n'hésite pas à invoquer ton Dieu. Invoque-le.
Et si tu ne l'es pas?
Et si tu ne l'es pas, alors... La pensée positive peut être déjà un début de solution. Ça veut dire ne pas regarder les aspects forcément négatifs, mais se dire quelle est l'opportunité qui se cache dans ce que je suis en train de vivre actuellement. Première chose. Ensuite, d'une manière qu'on va dire rationnelle et mathématique, fais la part des choses. Et si la part des choses te donne en disant c'est un oui qu'il faut prononcer, prononce ce oui-là. Prononce ce oui-là et vas-y. Vas-y. Vas-y, tant que tu es convaincu qu'il y a quelque chose de bon qui t'attend au bout du chemin, vas-y. Vas-y, n'aie pas peur. N'aie pas peur. La vie, c'est une bataille. Je crois que c'est Victor Hugo, je ne sais pas si c'est Victor Hugo qui disait « vivre, se combattre ». Je ne sais plus qui le disait. Mais
je crois que tu as raison, c'est Victor Hugo.
Voilà, la vie, c'est ce combat-là.
Une grande question. Toi, pour bien commencer la journée, c'est quoi ta routine matinale quand tu te lèves? Parce que moi, j'en ai une, mais j'ai pas l'impression qu'elle est très adéquate pour être en forme le matin.
Tu vas pas croire.
Vas-y, fais-moi rêver.
Je me lève pas. T'as pas vu venir ça, hein? Ah ouais, avoue que t'as pas vu ça. Belle, c'est ça. Je ne me lève pas. Je me réveille, mais je ne me lève pas. Ah non, c'est clair. Ah non, je ne veux pas des embrouilles, moi.
Bon, quand tu te réveilles, du coup, c'est quoi ta routine matinale?
En fait, quand je me réveille, je prends toujours un temps pour rester sur le lit. Ça, c'est très important pour moi, lui. C'est un moment de respiration où je fais un acte d'offrande.
Un peu comme une méditation, quoi.
C'est une méditation. Je n'ai pas voulu prononcer le mot dans ce sens. C'est une méditation. Comme tu l'as dit, alors dans ce cas, je veux revendiquer. Je fais une méditation. J'ai tendance souvent à déguster la parole. Je suis catho, je le revendique, je n'ai pas peur de le dire. Je suis croyant, j'ai l'habitude de prendre la parole, je prends un test, je dis, qu'est-ce que ce test veut me dire ce matin? Généralement, on parle de la lectio divina, c'est une méditation de la parole. Qu'est-ce que ce test me dit? Et dans ce test, est-ce qu'il y a une petite parole qui peut me parler, que je peux mâchouiller durant toute la journée? C'est généralement la première chose que je fais. Et je peux te dire que c'est la dernière chose que je fais également avant de dormir. Je reprends ma parole, je la remâche en me disant, mais Patrick, comment a été ta journée? Est-ce que tu as donné du sourire aux autres? Est-ce que tu t'es offert toi-même du sourire? Pourquoi tu as été en colère à un moment dans ta journée? Pourquoi, Patrick, à un moment, tu as été brusque envers cette personne? Pourquoi tu n'as pas été gentil? Pourquoi tu n'as pas été généreux? Je fais ce qu'on appelle l'évaluation de ma journée. Ce sont deux mouvements essentiels de ma journée. Le matin, quand je me réveille, je ne me lève pas. Je reste sur mon lit et je fais cet art de méditation. Et très souvent, dans la soirée, quand j'offre le matin ma journée, j'offre ma personne. Dans la soirée, qu'est-ce que je fais? Généralement, je fais plutôt de l'intercession. Seigneur, je rencontre lui aujourd'hui. Il est sympa, on a rigolé comme des fous. On avait l'impression qu'on avait grandi dans le même quartier et tout ça. Alors, fais quelque chose pour lui. J'adore sa manière de me poser des questions. J'aime son journalisme assez frire et large, ce bâton rompu où finalement on a l'impression qu'on est en train de prendre un café et tout ça. J'aime bien ce style décontracté.
J'aurais pu apporter le café, c'est vrai.
Alors, c'est ça. Donc, je vais regarder les éléments de ma journée. Et ces éléments vont constituer l'offrande de ma soirée. Ça veut dire, le matin, c'est moi, et le soir, c'est les autres. Le soir, c'est généralement les autres, en fonction de tout ce que j'ai vu. Et le matin, quand je me relève, je dis, je réalise encore, c'est un miracle, je suis encore debout.
Il s'est passé beaucoup de choses pour toi en 10 ans.
Oui.
Comment tu te vois dans 10 ans?
Alors, mes amis, ça les fait toujours rigoler. J'ai dit, je prends ma retraite. Ça suffit comme ça. Ça aussi, je savais, tu ne m'as pas vu venir. Ça, je savais aussi.
Faut que t'arrêtes. C'est quoi, je vais perdre de mon sérieux.
Non, non, non. Si on est trop sérieux, on ne va pas s'en sortir. Déjà, la vie, elle est assez catastrophique comme ça. Alors là, je redeviens sérieux maintenant. J'ai choisi d'aller pour 10 ans aux études. Alors j'ai envie, pour les 10 années prochaines, si la grâce m'est donnée d'être sur la planète Terre, je peux ne plus être là. Alors si j'ai la grâce d'être encore sur cette planète, je voudrais me consacrer à beaucoup voyager pour pouvoir partager mon expérience à travers le monde. Comme j'écris des bouquins, je voudrais partager cette expérience que j'ai vécue. Je voudrais remettre les autres debout. Je voudrais, pour les 10 années à venir, parce que j'ai une association en France, que j'ai créée en France en 2012, qui s'appelle Palirom. Et notre but en France, c'est de faire nous allons dans les écoles, dans les lycées, pour parler de la différence, pour parler de la discrimination, pour parler du handicap, pour parler du harcèlement. Parce que beaucoup de jeunes souffrent du harcèlement et on se souvient de la jeune de 15 ans qui est récemment s'est retrouvée en train de perdre de la vie, une situation qui nous a beaucoup touchés. Donc, avec cette association, c'est ce que nous faisons. Depuis le confinement, nous l'avons plus fait parce qu'il faut respecter les gestes barrières, il faut respecter la distanciation. Mais le but, c'est de pouvoir continuer à l'essor de sur la France, comme on a l'habitude de faire avec les membres de l'association, pour parler, pour soutenir, pour relever, pour libérer la parole.
Toi, dans 10 ans, tu voudrais prendre ton sac à dos et aller te balader dans les pays, quoi.
Oui et non. Oui, parce que balader, c'est ça le sens. Parce que finalement, on ne prend rien au sérieux, on se met en route. Balader dans le sens où, justement, on voudrait, comme j'ai dit, s'aimer de l'amour, de la joie sur le trajet. Avec,
j'ai assez de graines pour ça, tu penses?
Je n'ai pas suffisamment de graines, mais j'espère que de mon corps sortira suffisamment de sueur pour pouvoir fermenter la terre et faire pousser les graines que les autres accepteront mettre en terre. Parce que c'est toujours la notion de ensemble. Si en France, j'ai créé l'association Palirom en 2012, au Cameroun, j'ai créé également une association qui s'appelle Rayon de Souris en 2014. Et cette association, qu'est-ce que nous faisons là-bas? Si en France, nous faisons beaucoup de l'éducation, du conseil, des conférences, là-bas, on ne parle pas beaucoup de discours. Ce sont des actes. Nous construisons des rampes, nous finançons les études des personnes en situation de handicap et si possible, nous finançons des projets. Et de temps en temps, on apporte des dons, des béquilles et tout ça pour accompagner. J'ai essayé de commencer à développer un réseau autour de l'Afrique avec le Bénin, la Côte d'Ivoire, pour pouvoir faire une synergie en Afrique autour de la question du handicap. Parce que justement, en Afrique, les personnes en situation de handicap ont beaucoup développé le devoir parce qu'ils n'ont presque pas de droit. En France, on a beaucoup évoqué le droit, mais on a oublié le devoir. Donc, vous voyez qu'il y a toujours, il y a toujours cette complémentarité dans ce jeu qu'il faut faire. Donc, dans 10 ans, c'est dans ça que je me vois. Continuer à construire des rampes au Cameroun, en Afrique, dans d'autres pays, à faire changer, à faire bouger les lignes sur le handicap. Continuer à faire des conférences en France pour soutenir cette jeunesse parfois qui se retrouve débordée. Avec Cédric Voisin, qui est un ami avec qui on va en aumônerie à Mac en Barreul, c'est ce qu'on essaie de faire. Parce que le directeur de cet institut, Monsieur Dragon, essaie au maximum d'inviter les enseignants, les encadreurs, l'aumônerie à prendre du temps pour écouter les jeunes. Et parfois, vous vous rendez compte qu'il y a des jeunes qui sont à la porte du suicide. Ils sont à bout, qui sont harcelés. Donc, il faut les accompagner. Dans 10 ans, je me vois un peu dans cette optique, avec mon fauteuil en train de rouler. Le projet que j'ai eu avant le confinement également, dont on avait travaillé avec plein d'autres associations lilloises, on a dû arrêter. On avait prévu faire 750 km sur fauteuil roulant, donc que je devais faire, en partant de la France pour le Cameroun, pour sensibiliser sur le regard porté sur les personnes handicapées. Mais le virus est arrivé, et avec les fermetures des frontières et tout ça, on a dû suspendre le projet.
Bah franchement, donc, vu tes bras, t'aurais pu faire deux fois la distance. Hein.
Voilà, c'est dans ça que je me vois. Je ne me vois pas en train d'avoir forcément un jet privé en train de... Non, je ne me vois pas forcément d'avoir le dernier iPad ou un iPhone. Je n'ai rien contre si quelqu'un l'a. Hein. C'est un outil de communication comme plein d'autres outils de communication. Dans mon téléphone, je connais manipuler 3 endroits, les messages, les appels et raccrocher. Le reste, je ne connais pas, je ne suis pas trop technique. C'est déjà une grande avancée technologique. Hein. Et j'ai déjà fait beaucoup d'efforts quand même.
Ouais, je trouve. Hein.
Donc, tu vois que j'ai tous les atouts pour me retrouver en EHPAD, ça, avec un téléphone juste très simple, où ça ne se casse pas la tête.
Avec les gros boutons.
Avec les gros boutons et tout ça. Ça, je m'entraîne déjà aussi dans 10 ans.
Sois pas si dur envers ton âge, enfin.
Non, non, je suis pas si dur envers mon âge. Tout au contraire, j'en rigole. Parce qu'il faut rigoler de la vie. Il faut mettre une note de dérision. Permettons-nous, lui. Pourquoi j'arrive à rigoler avec toi de cette manière, maintenant? On se connaît pas. Mais c'est tout simplement pour préparer cette émission, il y a eu un premier coup de fil. Et la première chose qui a été faite, c'était un bâton rompu. Patrick, est-ce qu'on peut se tutoyer? On peut se tutoyer. On a parlé rubis, on a parlé tout. Donc, ça veut dire que des conditions se sont réunies pour pouvoir être aussi décontractés. Il y a nos natures. Mais c'est vrai. On peut pas rigoler de tout. Partout. Avec n'importe qui, n'importe comment. On se le permet parce qu'on a, on a mis ces conditions. J'aime beaucoup. Ça me permet d'oublier des douleurs que j'ai dans des gens. J'ai des douleurs violentes dans des gens qui ne sont pas imaginables. Ça me permet d'oublier qu'il y a 3 semaines, je suis passé au bloc opératoire où j'ai fait 4 heures de temps. Ça, oui, ça me permet d'oublier. Ça me permet d'oublier en me disant que, écoute, le médecin m'a dit qu'écoute, dans un mois, tu repasses encore au bloc. Donc, comment je me vois dans 10 ans? Je me vois dans cet instant avec toi. Et je suis en train de vivre un moment magique. Mais aussi, je me permets de rêver. En se disant, s'il y avait 10 ans encore à faire, je voudrais continuer à parcourir la France pour dire aux jeunes écoliers dans les lycées, stop au harcèlement. Stop au harcèlement. Oui, ensemble, vous pouvez bâtir quelque chose. Non à la différence. La différence est un atout. Je voudrais continuer sur l'Afrique à mettre des projets sur l'accessibilité, construire des rampes, payer la scolarité des jeunes en difficulté. Donc, c'est ce que je rêve. Et un matin, lorsque la vie viendra me dire, écoute, Patrick, il est temps d'aller visiter d'autres planètes, alors je voudrais partir avec une note de souris sur mes lèvres. Voilà. Tranquillement. Je n'ai pas d'angoisse pour demain. Mais pour moi, c'est la capacité à mettre des mots sur les mots. Les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Il faut le faire. Sans avoir peur. Il faut oser le dire que notre société aujourd'hui a imparti la manière dont nos étudiants, nous les étudiants, nous abordons la vie. On est dans le culte de la beauté aussi. On est dans le culte du paraître. En telle enseigne que aujourd'hui on voit par exemple que beaucoup de magazines de beauté, par exemple, acceptent mettre en avant des femmes avec une certaine forme qui avant n'était pas mise. Il y avait une sorte de marginalisation. De mise en barrière de cette femme avec toute leur beauté. C'est pas normal. Aujourd'hui, on voit que des marques mettent des personnes handicapées en avant aussi. Parce que l'excès de normes fait que nous, étudiants, à un moment, quand on sort de l'école, on a l'impression d'entrer dans une jungle. Il faut être first. Le premier. On réalise pas qu'en fait, lorsque je deviens le DRH, lorsque je deviens le journaliste, lorsque je deviens l'urgentiste, je deviens le médecin. En fait, la beauté de ça, c'est quoi? C'est que je me réalise comme être humain. Mais ensuite, je dois être quelqu'un qui offre du bonheur aux autres. Dans beaucoup de bureaux, lorsqu'on traite un dossier, les gens ne réalisent pas que les dossiers qui sont en face d'eux, ce sont des êtres humains. On réalise pas. Ce sont des êtres humains qui sont là. C'est un bout de papier, mais le numéro 6 représente quelqu'un. Donc, au moment où je prends la décision, je fais basculer la vie de quelqu'un. Et ça, parfois, on ne réalise pas. Et dans 10 ans, je me vois dans quoi? Je me vois en train de rigoler. Si je suis encore sur la planète Terre.
J'espère que dans 10 ans, je rigolerai avec toi aussi. Un dernier message à transmettre à des étudiants qui sont peut-être dans le doute de quoi choisir comme étude, peut-être dans le doute de peut-être que je vais changer de voie, ou alors peut-être dans l'optique aussi de je vais continuer à fond dans ce que je fais.
Si j'avais un dernier mot à dire aux étudiants en disant qu'il n'y a pas de dernier mot, il n'y a pas de dernier mot. Et vous savez pourquoi il n'y a pas de dernier mot? Parce que nous sommes en vie. Nous sommes en vie, donc il n'y a pas de dernier mot. Alors tu as un projet sur le plan universitaire, où tu es en bout de parcours, c'est un projet professionnel. Alors, première chose, c'est la fameuse respiration. Respire pour éviter de stresser. Et ensuite, sur un angle de la raison, dis-toi quelles sont les cartes que j'ai en main. Dis-toi que je peux consulter, je peux demander conseil à qui pour pouvoir avoir un regard différent de mon regard. Dis-toi que je peux prendre quoi comme dimension de recul pour me permettre d'avoir les idées claires et prendre la bonne décision de discernement. Et ensuite, n'aie pas peur, jette-toi. Il n'y a pas de projet sans obstacle. Il n'y a pas de projet sans défi. Il faut tout simplement nourrir son être de toute la puissance de la pensée positive, de toute la puissance des gestes positifs, de toute la puissance de la foi si tu la possèdes et te dis « je vais y arriver ». Et attention, dernière chose, s'il arrive que sur le chemin, tu chutes, la chute n'est pas la fin. Parfois dans cette chute, tu peux reprendre les forces, tu peux avoir la meilleure position pour réévaluer ton projet, pour pouvoir te relancer. Il faut avoir toujours un projet de vie. Et dans un projet de vie, il faut maintenant avoir des sous-projets. Un projet affectif, un projet intellectuel, un projet familial. Et dans chaque sous-projet, tu peux te donner les outils nécessaires. Comment faire ? Surtout, nourris-toi de pensées positives. Surtout, essaie de trouver quelque chose qui va te faire rigoler. Plus tu vas rigoler, plus tu vas prendre les choses d'une manière positive, plus tu auras la capacité de mieux discerner. Et tu pourras y arriver. Et si on te l'a jamais dit, moi je te le dis sans te connaître, tu es quelqu'un de formidable. Je ne te connais pas, tu es en train de nous écouter. Tu es quelqu'un de formidable parce que tu as une dignité. Tu es un être humain et chaque être humain est unique. Et en toi, il y a de l'énergie. Tu as un talent. Je ne connais pas ce talent. Et rassure-toi, là, tu n'es pas en train d'écouter une émission de cartomancie ou bien de chiromancie ou bien d'astrologie. Je te le dis tout simplement que tu es un être humain et tu es unique et tu es magnifique. C'est tout, point barre, c'est pas négociable. Tu as de la valeur. Et dans cette valeur, il y a du potentiel. Et comment le trouver ? Évite de stresser. Évite de te pouvoir bloquer sur quelque chose qui ne vaut pas la peine. Prends du temps pour regarder s'il y a des personnes autour de toi, des conseillers d'orientation, des enseignants. Voilà. Prends du temps pour voir. Même l'assistance sociale, elle peut t'aider. Elle peut t'aider pour pouvoir te poser. En plus des enseignants qui sont des conseillers d'orientation. Et enfin, la respiration. Respire, mon ami, respire. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et c'est ce que moi, je fais. Je dis ce que je fais. Ce n'est pas valable pour tout le monde, mais c'est une recette que j'ai essayée, ça marche de mon côté. Donc, ce n'est pas une prescription. Rassure-toi, je ne suis pas Dr. Patrick. Ici, ce n'est pas la clinique de l'écoute. Mais c'est la clinique de la joie avec lui.
Ouais, c'est un très beau message. Merci beaucoup Patrick pour le temps que tu m'as accordé et pour le temps que tu as accordé à ceux qui vont nous écouter. J'ai été super content, mais vraiment très heureux de cette rencontre. Vraiment, je m'attendais pas à ça, sincèrement. Et j'espère que toi aussi t'as passé un bon moment.
Magnifique. Merci à notre université qui met en place tous ces dispositifs. Merci à tous les collègues de ma faculté avec qui je passe des bons moments. Merci pour cette belle rencontre. Merci à Loïc Laroche avec qui j'ai monté des projets aussi, à Isabelle et tous les autres au niveau doyen de notre faculté qui est en train de mettre en place des nouvelles dynamiques. Voilà. Merci beaucoup lui. Merci pour ce bâton rompu. Et j'étais heureux de pouvoir défendre les couleurs de notre université, de ma faculté, d'être présent aujourd'hui pour parler. Il y a de la belle matière. Venez à l'Université catholique de Lille. Vous ne serez pas dessus. Au-delà des études, vous rencontrerez des amis. Au-delà des études, vous aurez une famille. Une famille qui n'est pas forcément naturelle, mais une famille de vie. Une famille qui va vous nourrir de quelque chose qui passe par la préservation de la nature, qui passe par la préservation de votre projet d'études, mais qui passe surtout par un souci. Vous voit heureux. Et je peux vous dire, j'étais heureux.
Merci beaucoup, Patrick. Altitude est disponible sur toutes les applications de podcast et de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je serai ravi d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé, ça m'aidera beaucoup. Altitude est un podcast réalisé grâce au soutien des facultés de l'Université catholique de Lille. À très vite et prenez soin de vous !